Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport avec Marc Madio, avec Christophe Cessieux, Pascal Duprat et Fred Weiss. On peut préparer un café à Fred Weiss là, parce que l'ami, quand il regarde les finales NBA pendant la nuit, à un moment donné,
c'est
ça
dur
commence.
Le matin.
Ouais, c'est dur. Heureusement que tu fais pas de télé aussi aujourd'hui, t'imagines. Ouais. évidemment, retrouver les deux premières heures des grandes gueules du sport en podcast. Allez, le maquillage, ça fait des choses.
Hein. Ouais, ça
donne l'aide. La radio, c'est bien, il y a un côté magique. Mais c'est incroyable, il a une voix complètement clean ce matin.
Ouais, c'est beau. Ouais. Mais non.
D'ailleurs, alors, improbable, mais j'ai vu Grand Corps Malade dans une émission hier.
Ok.
Je me suis dit que tu pourrais tout à fait faire du slam, toi.
Mais tout le monde me dit que j'ai la même voix.
C'est vrai.
Après, on m'appelle très Grand Corps Malade.
Ah,
mais c'est vrai.
Bah, vas-y, tente un slam.
Non, je suis nul en slam.
Ah ouais.
Plutôt un chanteur d'opéra, tu vois.
Je te filerai un texte, tu vas essayer de me proposer.
Ok. Je vais faire un slam.
Ah bah, tu vois. Ah bah, bon, on a le début, en tout cas. C'est pas ouf. Hein.
C'est pas ouf, mais je t'avais dit. Hein.
Allez, vous retrouvez les deux premières heures des grandes gueules du sport en podcast sur toutes les plateformes. Tu sais que Pascal te suivra, hein, parce que Pascal, il adore le chant.
Ben écoute, je serais ravi de chanter avec Pascal.
Il est grand danseur aussi, donc
je kiffe.
Il peut envoyer
ça. Ça va être difficile à cadrer. Hein. Ouais. Si jamais on est filmé, on chante tous les deux, ça va être difficile à cadrer.
C'est bien en radio, on n'a pas besoin de cadrage.
C'est des avantages.
Allez, en fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Aujourd'hui, remportez votre enceinte portable Mino X. Une enceinte Bluetooth et flottante. Idéal pour vos premiers plongeons de la saison. Pour remporter votre enceinte portable Lexon, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Dans un instant, on va parler du retour de Serena Williams à 44 ans la semaine prochaine au tournoi du Queens. Est-ce que c'est une bonne chose pour le tennis? Mais tout de suite, les GG, vous nous ouvrez la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Alors les GG cette semaine, ce qui nous a marqué, c'est l'élimination complètement folle de la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka en quart de finale de Roland-Garros. Je pense qu'on a tous suivi ce match, hein. On pensait que ça allait être l'autoroute pour elle, pour aller gagner son premier Roland. Elle menait son match 6-3-5-1 avant de prendre un cinglant 10-0. On parle de la numéro 1 mondiale, hein, et elle a perdu la rencontre contre la Russe Diana Schneider. Elle ne remporte toujours pas donc son premier Roland, alors qu'elle avait devant elle toutes les possibilités. Sabalenka tient en conférence de presse après la rencontre, on l'écoute.
Aucune pensée, aucune émotion. Je veux juste abandonner le tennis, pour tout vous dire aujourd'hui, mais on verra bien dans 2 ou 3 jours comment je me sens. J'espère pouvoir reprendre le bon chemin du point de vue de mon mental.
Bon, elle a l'air d'aller mieux. Elle a mis quelques stories sur Instagram où elle essaie de remonter la pente à Aryna Sabalenka. Mais bon, c'est quand même suffisamment sidérant pour qu'on en parle, les GG, à travers vos expériences. Comment est-ce qu'on gère quand tout déraille? Je pense que vous n'êtes pas des Superman ou des Superwoman, hein, les sportifs de haut niveau, on le dit suffisamment. Il y a toujours un moment où il y a un coup de fringale, où il y a un coup de moins bien, où on est moins inspiré, peut-être tactiquement aussi, que tout nous échappe. Fred, ça t'est déjà arrivé?
Oui, mais j'ai déjà la chance de faire un sport collectif. Donc ça, c'est vraiment une grande différence. C'est-à-dire que quand tu ne vas pas bien, il y a tes coéquipiers qui sont là pour te rattraper. Mais ça dépend. La question, c'est quand tu dérailles sur un match ou sur une saison, parce que c'est deux choses complètement différentes. Si tu dérailles sur un match, c'est assez simple. Tu te reviens à tes basiques. Tu fais des choses qui te rassurent. Tu travailles sur des choses qui peuvent te permettre, sans te fatiguer trop, de revenir complètement en match. C'est-à-dire qu'en gros, si tu mets pas un panier, si tu rates tout ce que tu shootes, tu vas faire autre chose. Ou parce qu'on a la chance tu shootes moins, mais par contre, tu fais plus de passes, tu fais plus d'écrans pour libérer tes coéquipiers, tu fais plus de choses faciles à faire que tu maîtrises pour te relancer un petit peu dans le bas. Et sur une saison, c'est à peu près la même chose, mais c'est collectivement aussi. C'est-à-dire que il faut évidemment travailler sur tes basiques, travailler plus. Moi, je sais que quand j'avais des périodes très difficiles, je demandais au coach assistant de venir plus tôt le matin pour qu'on fasse des choses ensemble, pour répéter les gammes, pour se rassurer. Encore une fois,
tu fais de la répétition pour retrouver quelque chose.
Parce que quand il se passe quelque chose comme ça de difficile, tu perds la confiance. Et c'est ce qui est le plus dur de récupérer.
Ça t'est arrivé d'avoir un match où tu passes complètement à côté face à un adversaire?
Évidemment, il y a des joueurs. Moi, je vais te raconter une anecdote. J'ai 19 ans. Je suis dans 5 majeurs de Limoges, donc j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup de plaisir, c'est une joie immense.
Pour les plus jeunes, à Limoges à l'époque, c'était champion d'Europe en basket, c'était une institution.
Hein. Exactement.
Ça allait toujours.
Mais un petit peu moins. On va pas mentir, c'est quand même redescendu de 2-3 catégories. Et donc à l'époque, on joue contre Cholet et en face de moi, il y a un joueur qui s'appelle Paul Fortier, que Alors je suis désolé, je suis
un Américain.
C'est un Américain, mais naturalisé français. Enfin, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit, il fait 2m5. Donc
c'est un petit, il fait 2m5.
Non, mais encore une fois, il faut comparer. Moi, je fais
2m7. Comment il nous voit en fait, Pascal Dubois, tu le caractérises comment?
Il faut quand même recontextualiser. On joue le même poste de jeu. On a 12-13 cm d'écart, ce qui est quand même énorme. Donc, donc, je le considère comme un petit. Il est vieux, il bouge plus beaucoup. Il est un petit peu grassouillé pour l'époque. Et donc, je me dis, eh, le petit gros, là, je vais le manger. Et donc, il m'en a mis 35. Il m'a mis 35 points. J'ai pas vu le jour. J'ai jamais réussi à trouver la solution. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais sous-estimé un adversaire. Et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, cette défaite et le fait de perdre des pieds. Parce que je me suis rendu compte que, n'importe qui pouvait, à ce niveau-là, être performant et m'en mettre une sacrée. Et donc, depuis, je m'en rappellerai toujours. Paul Fortier, si tu nous écoutes, merci, ça m'a permis de continuer à progresser. Ouais. Mais la doudoune que j'ai pris, par mon coach dans la foulée, je te raconte même pas.
comment gérer quand tout déraille? Voilà, Fred vous a donné quelques indices. Et d'ailleurs, on fait souvent les vestiaires aussi pour vous inspirer. Alors vous, les jeunes sportifs ou les sportifs habituels ou même dans la vie de tous les jours, ça peut servir à savoir comment se recentrer. Marc, t'en as déjà eu dans le vélo des moments où tout déraille. C'est vrai qu'on pense à la fringale, évidemment.
Dans le vélo, tout déraille, c'est magnifique.
Ouais, oui. Oui, forcément, mais après, en cyclisme, on est quand même habitué à plus souvent être battu que vainqueur. Parce qu'on court, 70-80 jours par an, et sur les 70-80, on en passe beaucoup à être battu. Donc, on est habitué à avoir des moments difficiles. Après, quand on subit un échec, ou qu'on est dans un moment de déficit physique et mental, moi, la recette, c'est de se réfugier dans le travail. Faire un reset, se dire voilà, y a ça qui a pas marché, j'étais pas prêt, j'étais pas au niveau, je n'étais pas compétitif. À partir de ce moment-là, il faut se dire voilà, je reprends mes gammes, je refais
je vais courir 300 km pour m'entraîner.
Je vais m'entraîner, je vais faire le métier entre guillemets, je vais faire attention à ce que je mange, je vais dormir, je vais soigner ma condition physique et à travers le travail que je vais effectuer à l'entraînement, je vais forcément inéluctablement reconstruire mon mental.
Moi mais en fait c'est ça, c'est comme Fred, c'est en fait quand tu passes par des moments difficiles où ça déraille, justement, ça te sert à te rendre plus fort pour après, en fait.
Ouais, et puis tu t'en sers pour rebondir.
Non, mais par exemple, en course, t'as forcément eu une étape, mais en course, je sais pas.
Si t'es en déficit physique sur une journée, dans la journée, tu restaures pas. Ou rarement.
Mais tu fais quoi? Tu acceptes de lâcher?
Parce que t'as plus. En fait, si.
Tu vas dans le groupe éton.
Tu sauves les meubles, j'imagine.
Tu survives. Là, j'ai été dans une étape de montagne, t'arrives au pied d'un col. Tu te fais épailler dans le premier col. Épailler, ça veut dire larguer.
Oui.
Tu te fais larguer dans le premier col. Tu connais le métier. Tu t'es bon pour le groupe éto et tu rentres tant bien que mal au vestiaire à la fin de l'étape.
Mais quand tu jouais quelque chose, tu te retrouves dans le groupe éto, c'est dur quand même. T'arrives encore à tenir? Parce que t'as humilié aussi.
Parce que t'as toujours l'instinct de survie. Quand t'es dans une course, il y a la survie quelque part qui est là. Et c'est comme quand tu chutes, tu vois les coureurs qui remontent très rapidement sur le vélo. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est l'instinct de survie. Si tu n'es plus dans le peloton, tu es en danger de mort. Tu es en danger de mort sportive. Parce que si tu n'es plus dans le délai imparti pour rentrer, à la ligne d'arrivée, tu n'existes plus, t'es condamné. Donc l'instinct de survie en vélo, le mec, il tombe, il se relève immédiatement. Après, s'il y a de la casse, tu constates la casse et là, ça t'arrête définitivement. Mais s'il y a pas de casse, tu rebondis tout de suite pour essayer de réintégrer le peloton qui est ta survie. Quand tu es dans le peloton, tu es en vie. Quand tu n'es plus dans le peloton, loin de l'arrivée, et que tu es en situation d'être hors délai, tu es mort.
Et quand tu sens venir la fringale, Marc, quand tu sens que
tu trouves toujours une solution, l'instinct de survie également. Tu vas toujours trouver quelque chose, ou un copain, ou le bord de la route.
Mais en fait,
il y a toujours quelqu'un qui va venir à ton secours.
Comment gérer quand tout déraille, Pascal?
La différence, en fait, entre le sport individuel et collectif, elle est là dans ce que dit Marc. Quand t'es seul, forcément ça se voit. Or que quand tu es dans un collectif, tu peux peut-être un peu te planquer, même si tes équipiers ont besoin de toi. Mais moi, ça m'est arrivé des matchs où vraiment j'ai alors que je me sens bien, alors que techniquement je suis à l'aise à l'échauffement, et puis le match démarre, bien j'ai plus de jambes, j'ai le souffle court, j'ai le pouls qui tape dans la tête.
Ça va être un calvaire.
Ouais. Ça va être un calvaire. Donc là, faut avoir un mental à toute épreuve.
Bah, comment tu
parce que les passes. Eh ben, il faut pas que tu te planques, parce que tes coéquipiers, si tu te planques, tu sais, se planquer, c'est-à-dire pas vouloir du ballon, se mettre dans les mauvaises zones pour pas qu'on te trouve. Ok.
Oui, parce que ça peut se voir rapidement, et même l'adversaire peut le voir.
Oui. Tu te sens pas bien. Et puis surtout, la personne qu'il faut pas qu'elle le voit, c'est ton coach, hein. Quand tu es sur le terrain et puis que t'es pas bon, faut surtout pas que ton coach te voit. Donc, faut quand même que tu aies une force de caractère. C'est un calvaire. Et c'est pour ça que je voulais revenir à ensuite, quand t'es coach, quand tu vois ça. Le fait d'avoir été joueur, ça permet de mieux appréhender les choses. Moi, je me souviens un match, j'ai débuté, j'avais 17 ans chez les pros à Sochaux. Le premier match que je joue, c'est contre Nantes à domicile. À la mi-temps, je rentre dans les vestiaires, je suis super content. Je me dis, tiens, j'ai bien appréhendé le truc. L'entraîneur me félicite, me tape sur l'épaule et il descend le directeur sportif, qui s'appelait René Hauss, il m'a insulté. Il m'a dit, tu joues comme un vieux. Mais après, à 17 balais, faut retourner sur le terrain pour faire la deuxième mi-temps. Je te promets. Et ben, chaque fois que j'avais le ballon dans les pieds, j'avais une putain de pression. Mais une putain de pression. Mais impressionnant. J'avais les pieds qui brûlaient. J'étais en larmes. Je suis rentré en seconde mi-temps à 17 ans. Alors que c'était le plus beau jour de ma vie. C'était mon premier match professionnel. J'étais en larmes. Deux, trois matchs plus tard, on va jouer à Lens. Une passe en retrait d'un de mes coéquipiers. Je frappe du plat du pied. Barre. Mais le but était tout fait. Barre, je me suis fait insulter par mes coéquipiers. Vous m'entendez? Eh ben, ça vous apprend à vivre. Et ensuite, quand t'es coach, eh ben, ça t'apprend à relativiser quand ça arrive à certains de tes joueurs et que tu le vois.
Pascal, tu as dit un truc, auquel j'avais même pas pensé en préparant ce vestiaire. C'est parfois la capacité à cacher peut-être la douleur. Quand tu te sens pas bien, alors sur un terrain, tu peux le montrer, mais Marc, il y a souvent des coureurs cyclistes où on se dit, mais il montre rien, on sait pas s'il est fatigué ou pas. On pense à la même chose de Sinner. Par exemple, Sinner en tennis, une espèce de Iceman, un monstre de glace, on sait pas s'il va bien ou pas. Non mais toi, quand t'es sur le vélo, t'y penses, hein, il faut pas que je montre à mon adversaire que je suis pas bien. Ça fait partie. Il y a un jeu mental. Est-ce qu'on arrive à le tenir ou pas?
Personnalité.
Mais à un moment donné, les masques tombent.
Façon, attends, quand ça monte d'un cran, tu peux plus cacher grand chose.
Il y en a certains qui font semblant aussi de pas être bien.
Ouais,
Thomas
Vauclair.
Souvenez-vous de Thomas Vauclair.
Oui, il y a beaucoup de mimiques. Vauclair, il mettait beaucoup la grimace.
Toute langue dehors.
Tout le monde le savait. Il y avait le commentateur qui s'en servait dans la retransmission. Mais sur le vélo, tu fais pas forcément attention à ça. Tu sais que le tel coureur va faire la grimace ou que tel autre coureur ne va pas montrer d'émotion. Donc, au fil du temps, tu connais, tu sais avec qui tu es. Et il y a quand même ce truc particulier quand t'es en course, quand t'es dans une échappée ou quand t'es dans une ascension et que t'arrives dans le final de l'étape, tu ressens ton adversaire. Tu sens quelque chose chez lui, à des petits signes, à des petits mouvements qui vont faire que tu sens s'il est au rupteur ou pas au rupteur.
Il est lié émotionnellement à ton partenaire de galère.
Bien sûr, tu ressens. Tu sens si tu vas aller le chercher, tu sens s'il va t'en mettre une et que tu vas pas pouvoir y aller. Tu captes une énergie que tu ne vois pas à travers l'écran, mais que toi tu perçois sur le terrain. Et je pense qu'en foot, Pascal ne va pas me contredire. Tu ressens le truc. Nous, quand on regarde le match à la télé,
Fred,
on dit mais pourquoi
en basket.
Mais t'as pas le même ressenti que le joueur en face à face sur le stade et sur la pelouse. Lui, il sait.
Fred, dans les duels, tu sens.
Évidemment, tu sais. En fait, c'est assez simple. En fait, dans le basket, quand tu contres un ou deux premiers ballons, le mec, tu sais qu'il est mort. Tu sais qu'il ne se remettra jamais, qu'il ne shootera jamais plus de la même manière. Il faut être extrêmement fort mentalement pour le faire. Mais moi, juste,
je voulais revenir. Le basket, c'est un sport d'adresse.
C'est un sport d'adresse. Mais je voulais revenir sur ce que disait Marc. En fait, j'ai cru toute ma vie que j'étais un très bon comédien, que je masquais mes émotions, etc. Et en fait, j'ai vu dernièrement des matchs que je jouais, et j'avais tout le temps les mains sur les genoux, en fait. Tout le temps, le mec, tout le temps en train de respirer comme un bœuf. Donc, c'est pas si bon comédien.
C'est pour ça que tu t'es lancé dans une carrière d'acteur, d'ailleurs, pour essayer
d'arranger. J'ai pratiqué pendant toute ma vie, ça n'a pas marché, mais maintenant je progresse.
On est dans le vestiaire des grandes gueules du sport. Comment est-ce qu'on gère quand tout déraille? Tiens, Fred, justement, on va aller un peu sur le côté manager, coach et aussi coéquipier. Quand tu vois un collègue à toi, par exemple ton ailier, qui est le shooter, il n'en rentre pas une. Tu lui redonnes la balle?
Oui. Oui, oui, au contraire, il faut
est-ce
jamais.
Est-ce qu'il n'y a pas un moment où collectivement faut... non, vous non, dites on lui passe
faut,
plus la balle?
Il faut jamais
comme ça.
Ça
nous arrive à tous quand on est gamin, on dit ah, c'est bon, lui là, mais... Thomas il est sympa, ça fait 5 fois que je fais une passe en profondeur, il ouais, joue en jeu.
Sauf que là on est pro, on a envie de gagner, on sait qui est notre joueur. Et en fait, il faut pas changer d'attitude sous prétexte qu'il est moins bien sur ce jour-là. Et au contraire, notre objectif, nous, en tant que coéquipier, c'est de le mettre dans les conditions les plus faciles pour eux. Ce qu'on appelle percer le filet chez nous. C'est-à-dire que pour qu'ils remettent un panier, pour qu'ils se remettent en confiance, mettre tout en œuvre, mettre des écrans, bien taper les gens qui défendent sur lui pour empêcher qu'ils puissent défendre très bien sur lui.
Tu fais comme si de rien n'était.
Mais au contraire, on le met peut-être plus en confiance et plus en avant quand il est moins bien que quand il est bien. Parce que quand il est bien, il n'a pas besoin de nous, hein, réellement.
Pascal, t'es d'accord avec ça?
Ouais, moi je vais aller sur le rôle de coach. Il faut bien connaître ses joueurs parce que quand vous voyez un joueur en difficulté, eh bien en fonction de sa personnalité, quand c'est la mi-temps, eh bien il faut soit lui rentrer dedans. C'est le cas des joueurs à fort caractère. Le fait de les blesser, ça les rebooste. Et puis au contraire, des joueurs qui sont un peu plus faibles mentalement, qu'il faut plutôt choyer. Il faut aller les voir, c'est rien, ça va venir, leur taper dans le dos, leur donner quelques conseils pour qu'ils se remettent dans la partie. C'est important de bien connaître ces joueurs et d'avoir un bon feeling avec eux. Très important. Un entraîneur peut te remettre en selle, hein, ou alors peut t'enfoncer en fonction des quelques mots ou de son langage corporel sur le banc de touche dans la zone technique. Pascal. Si t'es toujours en train d'hurler après tes joueurs, leur rentrer dedans et dire putain t'es nul, tu nous fais chier.
J'ai
sûr que tu peux forcément le perdre.
J'ai une question par rapport à ça. Toi qui étais coach justement, est-ce que t'as fait un relais sur
les coachs de la vie?
Oui, non, mais bien sûr, mais qui a été souvent longtemps coach et justement, est-ce que tu cherchais un relais sur le terrain pour faire ce rôle sur le terrain? Parce que la kinothérapie au foot, c'est pas toujours très simple.
Non,
tu peux créer de loin, mais si t'as un relais sur le terrain, une sorte de capitaine, mais qui va voir les mecs quand ils vont pas bien, tu as toujours cherché ça ou pas?
Plusieurs joueurs en fait, c'est souvent il y a le capitaine bien entendu, mais plusieurs joueurs sont les leaders de l'équipe. Il y a celui qui va aboyer, celui qui va plutôt tempérer, il y a celui qui va montrer l'exemple par son attitude sur le terrain. Mais oui, il faut avoir plusieurs relais. Oui, il faut. De toute façon, c'est la multiplicité des connexions entre le banc et les joueurs et entre les joueurs à l'intérieur de l'équipe qui vont faire qu'on reprend la main quand ça flanche, parce que bien souvent au foot ça flanche parce que ça flanche collectivement, parce que l'équipe adverse est supérieure à la vôtre.
Marc.
Des plus beaux moments quand t'es coach ou que t'es directeur sportif, c'est quand tu accompagnes un coureur dans la détresse, qui a chuté, qui est blessé, qui est malade et qui est devant le camion balai. Et le but du jeu, c'est de le sauver, de franchir la ligne d'arrivée et de rentrer dans les délais. Et quand tu es dans la voiture, souvent t'es seul, tu es dans ta voiture avec ton mécano, parfois un invité, et tu as ton coureur qui est juste devant toi. T'as la voiture balai, derrière toi.
Ah, c'est la faucheuse qui est derrière.
Ouais. Et tu sais que tu es en combat avec le temps pour rentrer dans les délais. Alors, tu vois, quand on est dans les situations d'euphorie, de victoire, c'est grisant, c'est excitant. Quand tu te retrouves dans ce genre de situation avec un coureur, tu crées un lien indestructible avec ton coureur. Parce que si tu lui permets, si tu l'accompagnes pour le sauver, tu crées quelque chose qui va rester ad vitam aeternam avec lui.
Tu l'as pas abandonné.
Parce que là, t'es presque un peu ému, même en parlant, Marc. Tu penses à quoi? T'as des situations.
J'ai eu plein de situations comme ça, et ça crée un lien avec ton coureur.
Tu m'as sauvé. À l'arrivée, c'est Marc.
Quelque part, tu m'as sauvé, et tu vas pas lui dire je t'ai sauvé, mais lui le sait que tu l'as sauvé.
Christophe.
Mais même les jours où t'as pas pu les sauver, tout le monde a encore en mémoire.
Il reste quelque chose.
Tout le monde a encore en mémoire ce dialogue que tu as eu avec Thibaut Pinot. Au soir de son abandon, où il est en pleurs, il pense, il est passé tout près de remporter le tour, il est obligé d'abandonner dans cette étape en direction de Tignes. Et le soir, tu es dans sa chambre et tu essayes de lui parler, et lui remonter le moral.
Mais c'est mieux, il n'y avait rien de.
Comment on trouve les mots dans la détresse?
L'instinct.
Ouais.
Le moment présent. On ne cherche pas les mots, on ne les prépare pas. Je pense que ça ne se prépare. Peut-être qu'il y en a qui font autrement, mais c'est des choses qu'on ne prépare pas. On est dans l'instinct.
Le feeling du manager.
On est dans le feeling. On est dans.
Parce que toi-même, t'es un peu détruit. Détruit, le mot est peut-être un peu fort, mais t'es touché émotionnellement.
Oui, bien sûr.
La scène que raconte Christophe.
Oui, mais on en parle là aujourd'hui. Et par exemple, avec Thibaut, ça date quand même. Ça fait bon nombre d'années. On n'en a jamais reparlé.
Mais vous, jamais. Mais vous savez.
Mais lui et moi, on sait. Ça fait partie
de votre histoire, en fait.
De notre histoire. Comme et une. On n'a pas besoin de se la rappeler. On sait qu'elle est là. Elle sera là pour toujours. On peut être des semaines, des mois. On peut peut-être même être plusieurs. Alors, c'est pas encore le cas, mais on pourrait peut-être être très longtemps sans se parler. Ça restera. Ça restera entre nous. Quand tu accompagnes un coureur quand il est dans la détresse, ou quand tu accompagnes un sportif quand il est dans la détresse, que tu es avec lui, tu le vis avec lui, tu lui donnes quelque chose, tu lui apportes quelque chose. Ça use, ça fatigue, ça ruine le mental, mais tu l'as accompagné dans... Bon, ce moment, c'est un moment de vérité, c'est un moment d'homme à homme. C'est presque plus important et plus grand quand tu vas chercher une victoire. Parce que, en fait, d'aller chercher une victoire, quand tout se déroule normalement, que le placement est bon, on a l'action et la réaction au bon moment, j'ai envie de dire, c'est facile. C'est facile. Le plus dur, c'est quand tu es dans la détresse, quand tu te retrouves face à tes mecs le matin au briefing, que le jour d'avant, tu avais tous tes coureurs devant le camion balai, et que s'il n'y avait pas eu des repêchages, t'en avais la moitié qui aurait été éliminée. C'est là où il faut que tu trouves les mots, que tu trouves le ressort et la clé qui va te permettre de repartir le plus neuf possible face à l'étape qui t'attend.
Marco, t'as un stylo, je te donne le numéro d'Arina Zabalenka, tu vas lui remonter le moral. Parce que là, tu nous as transporté tout de suite. Ah bah Fred a noté, tiens.
Allez, on
referme la porte du vestiaire. C'était fascinant de vous écouter et c'est vrai qu'assez rapidement, on a développé sur comment on gère la détresse et c'est vrai que c'est ce qui explique les grands moments du sport. Sport aussi, les bons et les moins bons, parce qu'il n'y a pas que dans la victoire que le sport est intéressant et qu'il mérite de se raconter, évidemment. Allez les amis, retrouvez le vestiaire évidemment en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous savez, vous pouvez faire confiance en Fraise Weiss hein, dans la vie. Si vous n'êtes pas bon, ils vont repasser le ballon quand oui, il arrive.
Évidemment.
Ça marche comme ça. Ça dit beaucoup d'un homme. Ça dit beaucoup d'un homme.
Mais juste le ballon. Hein.
Le consultant, parfois, n'a pas les mêmes valeurs. Allez, à tout de suite sur RMC, on parle tennis. C'est ce que le retour de Serena Williams à 44 ans est une bonne chose. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.
Georges Quirinot.
C'est bien parce qu'on vient de parler justement de comment on gère les moments de détresse pour remettre en confiance. Et là, on remet un moment de détresse en accueillant à nouveau Sarah Pitkowski. Ah oui. Ça va, Sarah?
Très bien, très bien.
Non, mais c'est bien de réécouter parfois pour oui. se dire. Ah,
mais,
là,
mais j'ai pas compris, c'est Hugo quoi?
Je sais pas le dire.
Et qui?
Et qui ticket?
Voilà.
Ah, salut, pas ici. Ah,
c'est dommage, je vais pas à la Coupe du Monde. Ouais. Donc en fait,
ouais, c'est voilà.
Et le coach Arthur Fils?
Goran Ivanisevic.
Oh, c'est bon, elle est facile.
Ouais,
avec Marc Madieu, avec Pascal Duprat, avec Christophe Cessieux, avec Fred Weiss. Dans un instant, les jeux du sport. Aujourd'hui et tout le week-end sur RMC, vous allez remporter votre album Panini Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec 350 stickers toutes les 30 minutes. Un gagnant est tiré au sort. Alors, pourquoi je dis stickers? Des vignettes oui. collantes, autocollantes. Voilà. Je veux dire, à un moment donné, on n'est pas obligé de tout de faire des anglicismes.
Non, on peut.
Envoyez dès maintenant Panini au 7-32-16. Panini au 7-32-16. Mais d'abord, du tennis sur le buzzer avec le comeback de la semaine.
RMC, les GG sur le buzzer.
Breaking news, if you love your tennis, a seven-time Wimbledon singles champion and arguably the greatest women's player of all time, Serena Williams, is returning to tennis.
And Serena smashes Stevie's record. It's number 23. Serena Williams, 6-4, 6-4, into seventh Australian Open.
Et oui, on va réentendre ça, hein, peut-être le speaker qui annonce une victoire de Serena Williams, on n'y est pas encore. Hein. À 44 ans, l'Américaine a officialisé en début de semaine son retour sur le circuit. Ce sera pour le tournoi de double du Queen's à Londres, ça débute la semaine prochaine. Sa dernière apparition sur un tournoi WTA remonte à 4 ans, élimination en septembre 2022 au troisième tour de l'US Open. Le retour de la meilleure joueuse de tous les temps avec ses 23 titres du Grand Chelem en simple a beaucoup fait parler cette semaine. Ça divise même la planète tennis. Les GG, je vous pose la question. Le retour de Serena à 44 ans, est-ce que c'est vraiment une bonne chose pour le tennis, Christophe Cessieux?
Pour moi, non.
Marc Madiot?
Pour elle, possiblement, oui.
Fred Weiss?
Tu peux pas me reprocher d'être tiède d'habitude, mais là, je sais pas.
Ah ouais?
Je sais pas.
Mais qu'est-ce qui... Quand tu dors pas, t'es comme ça.
Ouais, je sais.
D'accord,
pas.
Surprenant. Tu devrais dormir moins souvent, peut-être. Pascal.
Non.
Et Sarah.
Non aussi.
Ah, on vous attend au 32-16 et sur WhatsApp au 06 12 424 424. C'est vrai que le monde du tennis, on sent, est quand même un peu divisé sur le sujet. Sarah, l'entendu tout au long de la semaine. Pourquoi tu dis non? Ce serait pas une bonne chose?
On a entendu effectivement ceux qui parlent dans les médias et qui n'osent pas vraiment dire non et qui s'enthousiasment, comme un certain John McEnroe. Ou un Patrick Mouratoglou, mais je vois pas l'intérêt. Enfin, je ne comprends pas en fait à 44. Oui, je ne comprends pas à 44 ans, sachant que son dernier match remonte à 2022, que son dernier titre du Grand Chelem c'est 2017. Je ne comprends pas en fait quelle est la motivation qui fait revenir Serena Williams à 44 ans. Essayer de revenir sur le circuit.
Oui, mais
en
ça
fait.
C'est pas ton souci, ça. Ça n'a aucun rapport avec la question. C'est pour on parle du tennis, on parle pas d'elle. Quelle que soit sa motivation.
Mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, revenir elle va être à un moment obligée de justifier son retour. Et deux choses. Soit elle revient et parce qu'elle veut se prouver quelque chose et aller chercher un titre, parce qu'elle vient pas juste pour participer. Hein. Aucun intérêt.
On est d'accord.
Ok.
Ça, t'en es convaincu, ça.
Bah, jouer. Non, mais à 44 ans, t'as deux enfants et c'est une chef d'entreprise multimillionnaire. Je ne vois pas comment Serena Williams aujourd'hui s'ennuie dans sa vie au point de dire je vais retourner jouer au tennis. Non, mais le plaisir, t'as pas besoin d'aller sur le circuit pour jouer au tennis.
Bah, tu sais pas,
mais non, il y a des matchs par équipe aux États-Unis.
Je pense que c'est une addiction.
Mais une addiction à quoi?
Non, addiction à la dopamine, addiction aux sensations que te provoque le haut niveau, addiction au grand moment que tu as vécu.
Mais c'est pas pour rien que t'appelles ça une petite mort. T'appelles ça une petite mort quand tu t'arrêtes. C'est pas pour rien.
Elle peut jouer les légendes, elle peut jouer des exhibitions si le tennis lui manque.
Regarde ce qu'elle fait, Lynn Sevon, pareil. Exactement, la même
regarde
chose.
Où est Lynn Sevon aujourd'hui. Regarde où est Lynn Sevon aujourd'hui.
Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée. Lynn Sevon est revenue dans un premier temps.
C'est pas une bonne idée pour
elle
toi.
Elle s'est remise à gagner.
Ouais, enfin, c'est pas une bonne idée pour toi, mais elle.
Non, mais Lynn Sevon, elle avait un objectif.
Elle a failli se faire couper les jambes quand même.
Lynn Sevon avait un objectif. Elle a vu son niveau et elle a vu qu'elle pouvait pas.
Mais là, elle envisage à nouveau de revenir en
Lynn Sevon, tu dis ça aujourd'hui parce que ça s'est mal passé pour elle. Mais est-ce que tu tenais même discours quand elle est revenue? Non, quand elle est revenue, t'étais emballé par son retour.
Je demandais à voir.
Quand on l'a vu performer en plus.
Ouais.
Mais tu peux pas comparer. Serena Williams, c'est pas un sport extrêmement dangereux. Donc c'est pas très grave si elle joue un petit peu plus longtemps. Il y a moins de danger quand même.
Elle met pas sa vie en danger.
Elle met pas sa vie en danger, elle met sa réputation et sa légende en danger.
Ça,
est-ce qu'elle met sa réputation
en danger? On oubliera.
Franchement, les grands boxeurs qui sont revenus sur le ring, vous trouvez que ça a été glorieux le retour de Mike Tyson qui joue contre un vulgaire?
C'est pas Jake Paul.
C'est la même chose.
Est-ce qu'on s'en souvient vraiment?
On s'en souvient pas, on s'en fout.
Je trouve que ça jette une ombre sur la réputation, sur le caractère, le palmarès de.
Christophe, moi j'ai une question pour toi par rapport à ce que tu es en train de dire. Tu te rappelles que Michael Jordan il a joué au Wizards?
Il y a eu des cas, évidemment.
Il est revenu, il
a joué là-bas, personne ne s'en rappelle, et finalement, il a fait ce qu'il a eu envie. C'était correct.
Il a effectué un retour extraordinaire, il est revenu le meilleur, et ensuite, il a fait un nouveau retour, et là, il est passé complètement à côté. Après, il faut savoir aussi s'arrêter au bon moment, parce que tu peux en faire des éternels retours, des éternels comebacks, mais à un moment, ça marche plus.
Ça n'a pas beaucoup réussi à Lance Armstrong, hein, par exemple, mais c'est un autre sujet. Pascal.
Non, moi j'ai du mal à comprendre quand t'as tout gagné comme ça là. Pourquoi tu reviens? Parce que est-ce que alors vous me dites que Serena elle revient pour exister dans le circuit féminin? Mais ça voudrait dire que les autres c'est des nazes quoi.
Et ben c'est exactement ça.
Donc elle va pas
ça.
Exister quoi. Je suis désolé mais on connaît pas elle va motivation. Pas exister ou alors le tennis c'est plus crédible.
Hein. Exactement. Ouais. C'est en ça que mon interrogation elle est en fait. Soit elle revient et elle veut se prouver quelque chose mais je pense qu'elle va tomber de haut.
Ou alors elle a pas fait le deuil de sa carrière sportive.
Moi j'ai une hypothèse.
Oui, je sais ce que c'est ton hypothèse. Peut-être qu'on a un peu la même.
C'est que dans deux ans, il y a les Jeux Olympiques à Los Angeles.
En double.
Chez elle. Et voilà, et peut-être se retrouver avec sa sœur.
Si elle joue en double ou en simple.
Ouais, mais là, elle revient en double.
Là, elle revient en double, mais tout le monde pense qu'elle va demander une wildcard pour le simple à Wimbledon. Donc, on attend de voir. Mais effectivement, j'ai un peu la même. Elle vient pas juste pour se tester. Elle vient pas juste pour dire de remplir un tableau. Je pense, elle, sincèrement, elle a pas besoin de ça, Serena Williams. Aujourd'hui, elle a 23 titres du Grand Chelem. C'est la plus grande championne de toutes les championnes. Si elle revient, c'est qu'elle a un objectif sportif. L'objectif sportif en simple, il me semble complètement invraisemblable. Et si elle était amenée à revenir, c'est pas bon pour le tennis féminin, parce que ça voudrait dire qu'en arrêtant 4 ans, t'as toujours le même niveau des meilleurs mondiales. Et ça, c'est très mauvais pour le tennis féminin.
Mais moi, je pense qu'elle va prendre le double avec Vénus à Los Angeles.
Ouais, 2028, Vénus, elle en aura 48, donc il y a un moment, pas arrêter quoi.
Mais à Los Angeles,
il y a les Jeux Olympiques de la jeunesse, on va faire les Jeux Olympiques des seniors.
Mais les filles de Los Angeles,
à Roland Garros l'année prochaine.
Alors là, franchement, autour de la table, vous avez pas envie de le voir? Dites-moi la vérité.
Mais évidemment.
Pour boucler l'histoire.
C'est pour ça que je suis partagé, moi. C'est parce que voir une superstar qui revient, c'est toujours excitant, c'est toujours génial.
Franchement, il faut qu'elle allume la vasque olympique, Serena.
C'est sûr que c'est ça l'idée. Moi, c'est ça. Les deux sœurs jouent ensemble.
Non, mais on n'est pas sûr. Mais on réfléchit aux pistes. C'est vrai, effectivement, sur la motivation.
Le star system. Donc, il n'y a que ça qui compte dans le sport.
C'est pas le star system.
C'est voir les stars.
Non, mais c'est l'histoire.
Mais deux stars.
Bien sûr. Elle a peut-être tout simplement envie de se faire plaisir.
Ouais, mais elle pourrait se faire plaisir, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a des tournois des légendes. Mais bien sûr qu'elle fait comme elle veut, mais il y a quand même un tournoi pour les légendes.
C'est quoi,
elle
ne le fait pas.
Elle va prendre du tournoi des légendes à Roland Garros, c'est parfois plus intéressant que le tournoi.
Tiens, on a Renaud qui nous appelle au 32-16. Salut Renaud, tu nous appelles de Noisy-le-Sec. Ça va?
Oui, bonjour à toute l'équipe des Grandes Gueules. C'est toujours un plaisir de vous écouter le samedi matin. Ça fait vraiment du bien.
Eh ben merci.
Bon, ah oui, dans cette morosité, comme vous le disiez en début d'émission, c'est vraiment.
On est là
bien,
pour ne parler
vive le sport.
Que voilà. Le sport, exactement,
et
de se faire un plaisir.
Et tous les chroniqueurs qui sont formidables.
Bon, il y a Christophe Cessieux quand même aujourd'hui, hein, mais bon. Renaud, qu'est-ce que t'en penses? Ça te fait rêver, toi, le retour de Serena? C'est une bonne chose?
Mais écoutez, moi je suis du tennis depuis 1980. J'avais 9 ans, je suis tombé sur Borg McEnroe. Depuis, ça m'a. Voilà, après, j'étais un très mauvais joueur de tennis, hein, j'étais 4e série. Sinon, je suis passionné par le tennis, donc voilà. Moi, je suis plutôt de l'avis de la majorité des GG. Je trouve que ça me paraît pas être une très bonne idée. Et je rejoins ce qui a été dit. Serena Williams, c'est une grande championne, 23 titres du Grand Chelem. Elle était à un titre pour égaliser Margaret Court. Si l'objectif c'est d'essayer de gagner 24e titre du Grand Chelem, pourquoi pas? Je pense que ça va être très compliqué. Moi, je pense
que c'est même impossible.
C'est impossible. Moi, je pense que ça ne sert à rien. Est-ce que vous vous souvenez du comeback de Björn Borg?
Il a été catastrophique.
Moi, je me souviens, c'était à Monte Carlo. Oui. Il avait perdu contre Jordi Arrézé. Et là, je vous le dis de mémoire, je ne suis pas le regarder Internet. Je ne triche pas. Je trouve ça assez triste. Je pense que ça n'a pas grand intérêt. Alors, effectivement, on ne va pas l'empêcher de faire ce qu'elle veut si elle a envie de se faire plaisir, mais je pense que ça ne sert à rien. Alors, à moins qu'elle ait envie qu'on parle d'elle, hein, peut-être que le strass et les paillettes lui manquent, qu'on a envie de parler d'elle. Ah, vous voyez, elle est revenue sur le circuit, etc. Moi, je vois pas trop l'intérêt. Je trouve ça quand même assez dommage.
Ça t'excite pas des masses? Non, mais c'est vrai. Et il y a aussi je pense que dans tous les arguments, il y a la crainte que ça se passe mal, en fait.
On l'oubliera. Je t'ai dit, Jordan, on se rappelle plus qu'il a joué au Wizards. C'est pas grave, on l'oubliera.
Oui, mais on en fait aujourd'hui, on en fait les premières pages. En Angleterre, ils sont tous super excités et on commence à faire des paris. Et est-ce que Wimbledon va lui donner une wildcard? Et après, est-ce qu'elle reprendra la saison sur dur pour faire l'US Open?
Super. Moi j'aime bien.
C'est du business.
Non, mais moi je suis d'accord avec Marc. Si elle a envie, c'est le plus important. L'important c'est qu'elle a envie, elle a gagné le droit vu sa carrière immense.
Mais bien, elle a tous les droits.
Si ça t'intéresse pas.
Mais t'es pas obligé d'en faire les premières pages. Elle a tous les droits. Évidemment qu'elle a tous les droits. Mais si vous me posez la question de savoir si elle revient pour aller gagner un nouveau titre du Grand Chelem et égaler Margaret Court, je vous dis, mais non, là vous. C'est impossible.
Au fond de toi, qu'est-ce que tu en penses?
Ça n'a aucun intérêt. Occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de tes deux filles.
Dur, toi,
non, mais occupe-toi de tes deux filles.
Et on arrive à lui dire vite ta vie, et quand tu as envie de jouer, joue.
Elle traverse les États-Unis, c'est une chef d'entreprise, mais monumentale. Les paillettes, elle les a, elle fait tous les défilés de mode possibles. Je ne comprends pas.
Voilà. Sarah, mais quand elle va gagner Wimbledon dans deux semaines, dans trois semaines, ça va être fou. On va y repasser.
Je reviens plus jamais dans les jeux. Je fais partie des médias.
Serena fera une interview au Guardian. Elle va dire, je me souviens de Sarah Putkowski qui a été dure. Sarah, tu retrouves tout à l'heure, évidemment, 15h, finale féminine entre Chalinska et Andreeva à Roland-Garros. Finale, évidemment, à suivre sur votre antenne. Avec Eric, salut aux commentaires. On revient dans un instant, les jeux du sport.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport. Tout de suite, on joue.
RMC, les jeux du sport.
Je vous rappelle le principe, c'est du 2 contre 2. Vous allez défendre un auditeur. Répartition des équipes. Marc Madio avec Christophe Cessieux.
Oula.
Et Fred Weiss avec Pascal Duprat. Donc Fred,
bon courage, Pascal.
Un demi-Fred, hein.
Non, ça va aller.
Question impossible, activable par un seul joueur par émission.
On est prêt.
C'est l'heure de la victoire.
Bonne réponse, c'est 3 points.
Demain, il y a Benesso qui revient, c'est... donc profitons-en.
Un point. Oui, effectivement. Après, je suis pas sûr qu'il ait tout suivi, hein.
Ouais.
Quoi que. On a que nos auditeurs, Christian et Philippe. Salut messieurs.
Salut l'équipe. Bonjour les grandes gueules.
Salut Christian, tu nous appelles du Doubs, Philippe de Corrèze. Christian, c'est toi qui as appelé en premier. Quelle équipe? Avec Weiss Duprat ou Madio Cessieux?
Madio Cessieux.
Yes. Madio Cessieux, tu as bien noté que Fred n'a pas dormi.
bien vu.
Bien joué, mais tu es avec une équipe qui est grisonnante.
Ah oui, c'est plus que grisonnant là.
Face aux non-chevelus, pour ne pas être. pour ne pas être directement qui sont
crâne lisse. Face au crâne lisse.
Je voulais pas vous essentialiser. Allez, je rappelle aujourd'hui, vous pouvez gagner une enceinte portable Mino X de Lexon. Question à une seule réponse, les GG. Question à une seule réponse. Comment s'appelle le nom de la coupe donnée à la gagnante de Roland-Garros féminin?
C'est la coupe de Suzanne Lenglen. Suzanne Lenglen. Je l'ai bien dit là. Ah non, mais je sais qu'il y a Pascal en face qui est prêt à dégainer.
C'est bon. ça passe avec un petit
mouvement. Non, mais je savais pas que c'était Suzanne Lenglen.
Suzanne.
Il y a eu un petit.
Ah, bon, donc il a le point, quoi.
Non, mais tu vas avoir le droit au SMS.
Chris, il est très fort.
Il voit déjà en train de sur son canapé.
Il se fout la pression, le mec.
Chris, il est très fort, c'est que c'est un DJ, mais en fait, il se remix lui-même.
Suzanne
Remix.
Allez, c'est parti. 1-0 pour l'équipe Madio Cessieux. Question à une seule réponse. Une seule réponse. Le plus proche l'emporte. Allez, j'accepte. En quelle année a gagné Marie Pierre sur Roland-Garros?
2004.
Christophe Cessieux.
Deux. Moi, je pensais que c'était bien 2002.
Question pour vous, les auditeurs. Christian et Philippe, vous donnez votre réponse et ensuite votre prénom, comme ça je sais qui donne la réponse. OK pour vous?
OK.
Est-ce que vous pouvez me donner la nationalité d'une finaliste de Roland-Garros cet après-midi?
Russe.
C'est qui?
Philippe,
bien joué. Russe comme Mira Andreeva, sinon il y avait polonaise pour Maja Jvalinska. 2-1 pour l'équipe Madio, c'est sûr.
Bravo Philippe.
Question à une seule réponse, les GG. Grand Prix de Monaco ce week-end. Qui a gagné l'an passé?
Norris.
Norris, Christophe.
Oh là là.
Et encore une fois, le remix. Norris.
Non, mais il est rapide quand même. Il a joué.
Bravo.
Je te passe le numéro de David Guetta tout à l'heure. Je pense qu'il y a un featuring à faire ensemble. Question à une seule réponse. Une seule réponse. Combien de fois Bernard Hinault a remporté le Dauphiné?
5.
3.
4. 3 fois, Marc Mathieu.
Bien, Marc. Bien joué, Marco.
Je rappelle que la question impossible est activable. On n'est pas encore là. Question auditeur, c'est pour vous, Christian et Philippe. Vous donnez votre réponse et ensuite votre prénom. On reste dans le vélo. Qui a gagné le Dauphiné l'année dernière?
Pogacar.
C'est qui?
Philippe.
Philippe. 4-2. Attention.
Bien, Philippe, il faut qu'on tourne. Il faut qu'on se bouge.
Madio, c'est Fred, allez. Allez, question élimination pour 2 points. Vous répondez à tour de rôle, une erreur. Et vous êtes éliminé. Avec un petit coup comme ça, comment il fait le pistolet? Il fait peur, ce pistolet. C'est lui qui est le cœur, je pense. Hein. La Coupe du Monde débute jeudi, le football. Donnez-moi, s'il vous plaît, toutes les équipes européennes qualifiées
pour la déjà Coupe du Monde. Non, je ne l'ai pas fait. Et si je l'ai déjà fait, je fais ce que je veux. On commence par Fred.
La France.
La France, c'est bon. Marc.
Pays-Bas.
Pays-Bas, c'est bon. Pascal.
L'Espagne.
L'Espagne, je rappelle que si vous répétez un nom qui a déjà été donné, c'est pas bon. Christophe.
L'Allemagne.
L'Allemagne, c'est bon. Fred.
Le Portugal.
Le Portugal, c'est bon. Marc.
Croatie.
La Croatie, c'est bon. Pascal.
L'Autriche.
L'Autriche, c'est bon, dans le groupe de l'Argentine. Christophe.
La Belgique.
La Belgique, c'est bon. Fred, on cherche les qualifiés européens pour la Coupe du Monde.
La Turquie.
La Turquie, c'est bon. Eh oui, il faut les qualifs UEFA. Marc, on cherche...
La Suède.
La Suède est qualifiée. On cherche les qualifiés européens pour la Coupe du Monde. Pascal.
La Norvège.
La Norvège dans le groupe de la France. Troisième adversaire. Christophe.
L'Angleterre.
L'Angleterre. Et là, ça va commencer à devenir plus chaud. Fred, les qualifiés européens pour la Coupe du Monde.
La Suisse.
La Suisse, ça passe. Il en reste trois. Marc. Là,
l'Écosse.
L'Écosse.
C'est bon.
Allez, Pascal. J'en ai plus.
La Croatie.
Déjà
éliminé. Ah, merde.
On dit mince à la radio. Christophe.
La Serbie.
4, 3, 2, 1. Serbie, c'est pas bon. Fred. Il en reste deux.
La Tchéquie.
La Tchéquie, Fred.
Bien,
Marc.
Bien, Fred.
Ah oui, j'ai plus rien.
Il en reste un. Si tu l'as, 5, 4.
Islande.
Non, c'était la Bosnie, les derniers.
Je l'avais.
Fred, 4 partout. 4 partout. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que tout va se jouer sur cette dernière question. On a une musique un peu flippante, là, pour la dernière question. S'il vous plaît, on est à 4 partout. C'est la super question, les amis. Une seule réponse possible. Quel sera le deuxième adversaire de la France à la Coupe du Monde ?
L'Irak.
L'Irak ! Christophe Cessieux offre la victoire sur le buzzer à l'équipe Madio. Cessieux, félicitations.
Irak, c'est un coach. Bravo, Christian. Australien.
C'est toi qui remporte l'enceinte Lexon. Bravo.
Eh ben merci les grandes gueules.
Lexon, marque française d'objets design et connectés, vous offre le cadeau idéal pour tous les amateurs de déco et de design. Découvrez les coffrets et objets dans les grands magasins et sur lexon-design.com.
Fred est déjà en train de dormir, c'est incroyable. On le remercie et on lui dit à bientôt.
Dans le train, en direction de Limoges, il va pas voir grand chose.
Oh non, je pense que vous pouvez être surpris de le voir sur une autre antenne, peut-être. Également la télévision avec un visage. Merci Marc, on se retrouve demain.
À demain.
Merci Christophe, à demain également. À demain.